Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie. Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri, comme tous les lundis, mais ça va changer, vous allez voir.
Ça va changer, on va vous faire une petite annonce. Bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs. Ravi de vous retrouver en cette fin de mois d'août, et c'est déjà presque la rentrée des enfants bien sûr, mais celle de beaucoup d'entre vous qui revenaient de vacances bien méritées normalement.
Alors oui, pour commencer, ce sera la dernière émission lundi à 17h, parce qu'à partir de la semaine prochaine, rien ne change sur le fond et la forme, mais c'est juste la date. Nous serons avec vous tous les mercredis à 17h au lieu de lundi 17h. Donc à partir de la semaine prochaine, mercredi, rendez-vous mercredi à 17h pour Culture et Politique.
Petit changement de grille, on sera toujours aussi rediffusé en vidéo sur YouTube, sur la chaîne de Radio Courtoisie, que j'espère que vous êtes nombreux à suivre. Et voilà, ce sera toujours un plaisir de vous retrouver.
Alors aujourd'hui, donc lundi d'une pré-rentrée, on va dire.
Exactement, en douceur.
Alors peut-être, on avait prévu deux sujets pour cette émission. Les ingérences qu'on a parlé, on parle pas mal, maintenant c'est devenu...
C'est le mot à la mode ça maintenant, l'ingérence.
L'ingérence, c'est par période comme ça, parfois quand on veut discréditer un adversaire, on le traitait de raciste et xénophobe, après c'était de complotiste, ouais. Maintenant c'est...
Anti-vaccin,
oui, voilà. Maintenant c'est... on se victimise en... Remarquez, on se victimise toujours en faisant croire aux gens qu'on est victime de racisme. Hein. Je fais allusion au fameux Nagui que... emmêlé dans ces histoires de millions, ne sachant pas comment se défendre, il s'est dit « Oh, c'est du racisme contre moi ». On en reviendra, mais pour revenir à notre sujet, maintenant pour se victimiser, on dit « On est victime de l'ingérence étrangère ». Et puis mes adversaires sont les complices des ingérences étrangères. Bon, très bien, on en parlera. Et puis, comme c'était les vacances et on a tous été un peu partout en France, je pense, ou parfois à l'étranger, moi j'étais le témoin, c'est pas la première fois, mais là, cette année-là, j'ai étudié le sujet en profondeur, des Russes, des citoyens russes, donc résidents en France, et pas qu'en France, allez, on va dire la Principauté de Monaco, qui est un peu plus ou moins la France quand même, que les Monégasques me pardonnent, bien sûr que c'est pas la France, mais enfin, elle est coincée entre donc, tout ça et imperméable.
Oui,
et
puis dans les instances internationales.
Il n'y a pas de frontières, enfin voilà. Et donc dans cette Côte d'Azur où les Russes sont chez eux, j'ai pu les examiner de près cette fois-ci, parce que je les connais bien depuis un certain temps que j'y vais, et discuter avec certains d'entre eux. Et puis je les ai scannés, comme on dit maintenant. Et c'est très intéressant à expliquer à nos auditeurs de quoi s'agit-il, et surtout revenir sur cette russophilie de certains de nos amis de droite ou très à droite. Et je pense qu'ils devraient faire un tour. Je pense qu'ils les connaissent pas si bien que ça. Ils les connaissent à travers un prisme, à travers une sorte de fantasme qui est totalement irréel en réalité.
Bah, c'est-à-dire d'une espèce de, comment dire, de cliché.
Oui. Qu'on a inventé nous-mêmes. Non, il faut dire qu'eux ont construit un mythe, et certains de nos amis sont rentrés dans le mythe.
Ils ont acheté le mythe. Mais en fait, depuis très longtemps, parce qu'on a quand même une tradition russophile, surtout depuis la fin 18e siècle et 19e siècle. Et puis, ça a bâti... Alors, il y a cette russophilie qui a divergé au 20e siècle, puisque vous avez la russophilie qui s'est... concrétisé à l'extrême gauche dans l'Union soviétique, patrie des travailleurs, qui allait apporter la lumière et la société sans classe, etc., etc. Et puis à droite, vous avez une russophilie sans doute plus intellectuelle qui vantait à tout bout de champ l'âme russe. Alors, l'âme d'un peuple, c'est toujours difficile à quantifier et difficile à définir. On peut tout à fait parler d'âme française ou d'âme alsacienne ou auvergnate ou corse, pourquoi pas, bien évidemment. Une âme, ça se vit ou ça se partage, mais on peut difficilement la définir en laboratoire. Et donc cette espèce de vulgate disait en gros que l'âme slave, c'était l'âme des poètes et des lecteurs de Dostoïevski et de Tolstoï. Mmh. Alors, oui, en partie, mais
c'est
pas uniquement.
C'est ça le problème, c'est qu'on a mis... On a pris ces deux auteurs que vous venez de citer, et on a fait de l'ensemble de ce pays, de ces populations, des intellectuels à la Tolstoï, sauf que ils ont quelques auteurs, ils ont de la musique classique. On en a fait la nation la plus intellectuelle, la plus cultivée
la plus
raffinée,
la plus poétique.
Ce qui est totalement faux.
Alors bien évidemment, il y a une grandeur slave, il y a une grandeur russe,
il y a une grandeur allemande aussi, française, italienne, que sais-je encore.
Après, bien évidemment.
Non, mais je dis ça parce qu'on nous présente.
On peut faire des hiérarchies aussi. C'est-à-dire que vous avez quand même des peuples et des nations qui ont un peu moins à porter que d'autres.
Certainement. Mais on ne mettra pas dans cette hiérarchie la Russie en tête.
Oh, oui, après, bon, ça dépend des domaines, ça dépend des périodes. Mais après, vous avez justement toute une branche qui vient en gros nous dire que si Poutine envahit l'Ukraine, c'est en application de ce que pensait Dostoïevski ou Tolstoï il y a 100 ans. Alors non, c'est pour instituer le règne des poètes russes. Non plus. Voilà. Il y a assez peu de poésie dans la guerre de tranchées abominable qui est en train de se jouer là-bas.
Au-delà de ça, la plupart de ceux qui sont admirateurs de ce régime, parce qu'il s'agit de ça, hein, parce que là, j'entends ce que vous dites, mais je vous assure que la majorité de ceux qui admirent aujourd'hui les Russes et la Russie, ce n'est pas pour Tolstoï ou Dostoïevski, hein, ils admirent le régime. Oui. Le régime russe, et d'ailleurs, ils le revendiquent. Hein. Ils vous disent pas, j'adore la culture russe. Ils vous disent, ce régime est formidable parce qu'il est conservateur, il défend le christianisme, etc., etc. C'est ça l'idée. Bon. Et donc, et c'est là où je veux en venir justement, parce que bon, ce régime, parlons-en, parce qu'on vous le présente comme un modèle, un régime idéal à copier. Vous voyez,
oui,
c'est ça
fait.
Le problème. C'est pas une question culturelle, c'est un régime à copier. Bon. Alors, on en a peut-être déjà parlé, mais enfin, juste avant d'aborder le vif du sujet, rappelons tout de même que depuis 1940, alors c'est toujours la faute des autres, hein. C'est toujours la faute de l'OTAN, la faute de l'Occident, la faute de je ne sais qui, c'est jamais de leur faute à eux. Mais enfin, ce pays s'est débarrassé de l'Union soviétique il y a 35 ans. Mmh. D'autres aussi se sont débarrassés des régimes communistes, la Pologne, la Slovaquie, la Tchéquie, la Hongrie, etc.
Ils n'ont pas du tout suivi la même trajectoire, lui, ne serait-ce que politique.
Contrairement à ces pays que je viens de citer, la Russie, elle a des richesses naturelles, du gaz, des minerais, du pétrole,
du
etc.
Charbon,
et en quantité, hein, c'est le deuxième producteur de pétrole au monde, ou troisième, je ne sais plus. Bon, donc c'est pas juste un petit producteur de pétrole. Donc ils ont une manne financière énorme qui aurait pu leur permettre de développer leur économie en investissant tout cet argent qui tombe du ciel comme ça, et de faire de leur pays un pays moderne, à la pointe de la technologie, à la pointe de l'éducation, à la pointe de plein de choses. Résultat des courses, en fait, tous ces biens, ça me rappelle un peu la Révolution française, vous savez, quand les biens nationaux, ce qu'on appelait les biens nationaux, c'est-à-dire, je résume un peu pour les auditeurs qui ont oublié ce terme, c'était, après la Révolution, les biens nationaux étaient nationalisés et volés.
Biens de l'Église d'abord.
Voilà, les biens de l'Église, les biens de la noblesse et les biens de l'État.
Et qui ont été vendus pour rien.
Pour rien.
À des particuliers qui se sont enrichis.
D'où le complexe de l'argent en France. Hein. Parce que Jean Tullard, qui était mon professeur à la Sorbonne, et que je salue parce que c'est un excellent professeur, nous disait toujours, le complexe de l'argent en France, ce n'est pas parce que nous sommes catholiques, parce que vous savez, l'Italie aussi est catholique, l'Espagne est catholique, l'Allemagne en partie est catholique, mais il n'y a pas de problème d'argent. En France, le problème, ce complexe de montrer son argent vient de là, parce qu'il fallait cacher les biens que l'on a volés.
Ouais. Voilà. Vous lisez les romans de Balzac, il n'y a pas un roman où il ne parle pas de la question des biens nationaux et des accapareurs. Il n'y a pas un roman où il en parle pas.
C'est exactement ce qui s'est passé à la chute de l'Union soviétique, c'est-à-dire que les biens nationaux ont été bradés pour rien. Vous achetiez une usine pour l'équivalent de 100 dollars, vous achetiez
une carrière,
De pétrole pour rien. Et qui les a achetés? Les fonctionnaires du KGB, les fonctionnaires de l'Union soviétique, alliés à des truands. Et aujourd'hui, tout cet argent est confisqué par eux, qu'ils viennent dépenser comme des Arabes du Golfe, disons les choses. Je les appelle les Arabes blonds, parce qu'ils fonctionnent de la même manière. Il y a 99% des richesses qui est concentrée aux mains de 1% de mafieux, qui ont volé les biens de l'État et le bien des citoyens russes, et qui le dépensent comme voilà, et puis le reste de la population, vous savez qu'en dehors de Moscou, il y a des tas de gens qui n'ont même pas de toilettes chez eux. Hein, bon. Alors, revenons à notre sujet. Alors, ce que j'ai vu, et je vous laisse la parole, Pierre-Henri, parce que je suis un peu long. En résumé, je précise très important ce que je veux dire. Ceux que je cite là, ceux que j'ai scannés, ne sont pas des réfugiés politiques russes.
Non, pas du tout.
Ce sont les gens au pouvoir.
Ouais.
Ce sont les oligarques russes qui sont au pouvoir en Russie, qui sont les soutiens de Vladimir Poutine et qui sont sur la Côte d'Azur. Et qui vivent en partie de l'année.
Qui sont d'ailleurs voisins de palier parfois des oligarques ukrainiens.
Pareil. Très bonne parenthèse, Pierre-Henri, parce que tout ce que je dis là, ça vaut pour les Ukrainiens aussi. Hein. Je ne dis pas que les Russes sont moins bien que les Ukrainiens. C'est pareil.
Rappelons qu'il y a un mois, il y a eu d'ailleurs un oligarque ukrainien qui a été assassiné par une espèce d'espionne qui a été elle-même exécutée en Ukraine.
Probablement
après.
Les services ukrainiens.
Voilà, mais ça aurait pu être le même en russe.
Mais moi, je les vois. D'abord, vous ne faites aucune différence entre les deux. Ils sont copains entre eux. Enfin, tout ce que j'ai, quand je dis les Russes, ça vaut pour les Ukrainiens. C'est pareil. C'est exactement pareil, parce que les oligarques ukrainiens, il y en a aussi, ils ont volé les mêmes biens. Pareil.
Tout à fait.
Et donc, ces deux peuples, ces deux nations qui se font la guerre se ressemblent beaucoup. Bon. Et donc, et qu'est-ce que voit-on sur la Côte d'Azur? Nous voyons tous ces hauts fonctionnaires, oligarques, appelons-les comme on veut, plutôt oligarques que hauts fonctionnaires, russes, dépenser un argent fou alors que leur pays est en guerre. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'on les présente comme un modèle de conservatisme chrétien, moral, etc. Que voit-on? On voit... Alors, je vais faire attention au vocabulaire que j'ai utilisé, parce que pour ne pas être condamné par l'ARCOM et par les tribunaux.
Oui.
Que voit-on? Nous voyons des types qui ressemblent à des, qui ont un argent fou, qui jettent l'argent par les fenêtres, mais qui ressemblent, à des, je ne sais pas quel terme utiliser pour ne pas être condamné, hein.
Oh, des nouveaux riches.
Ouais, non, mais pire que ça. Goût, d'une vulgarité couche, incroyable, ouais, avec ouais. Des femmes. Vous savez, vous êtes dans un restaurant, vous les voyez avec leurs femmes et leurs enfants. Alors, leurs enfants sont scotchés, pardonnez-moi le terme, à leur téléphone. Portable voilà. À jouer à des jeux américains. Je pensais que les États-Unis étaient la culture américaine était leur ennemi. Bon,
c'est l'Occident décadent.
Moi, je dis
décadent.
Ça pour nos amis de...
C'est l'Occident décadent. Je vais en reparler de l'Occident décadent voilà. Parce que j'ai
nos
un
amis de droite hein, qui trouvent ça, qui trouvent que la Russie lutte contre la déchéance, de la décadence mais... américaine. Eh ben, ouais. Leurs enfants jouent avec des jeux vidéo américains, avec des téléphones américains. Eux sont habillés de la tête aux pieds par des marques occidentales hors de prix.
Hors de
c'est-à-dire
prix,
oui. Claquettes en crocodile à 5000 euros d'une marque qui commence par H.
Oui, par exemple.
D'un mauvais goût extrême. Leurs femmes sont assises à table. Il vaut mieux ne pas se mettre en face parce qu'il suffit que elle mâche quelque chose de dur et sa lèvre bourrée de collagène explose et vous arrose le visage. Enfin bref, leurs femmes ressemblent à des poupées gonflables, à des sapins de Noël avec 36 000 bijoux. Vous avez au bord d'une piscine des femmes avec des bagues à 50 000 euros, voire 100 000 euros, des montres.
Ouais,
voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça la morale, etc. Vous allez dans un bar, vous voyez leurs femmes qui ressemblent plutôt à des ribaudes qu'à des épouses, en train de danser sur une musique dite, paraît-il, décadente américaine, mais ça les gêne absolument pas, habillées à moitié nues.
Mais que vous parliez voilà. De décadence, c'est amusant parce qu'il y a une revue, un magazine, dont on taira le nom parce qu'il m'agace un peu, beaucoup même, qui a fait sa dernière une, je crois, sur l'Occident décadent, en collant sur cette une, en gros, de différentes figures. Alors vous aviez le LGBT façon drag queen travesti sur le chariot de la Gay Pride, vous aviez l'espèce de DJ obèse qui a fait l'ouverture des JO, vous aviez l'Algérienne schizophrène qui a tué la pauvre Lola, je vois pas en quoi ça concerne l'Occident,
oui.
Des Algériens tueurs d'enfants.
Parce que
d'enfants,
des Tchétchènes qui tuent des enfants
ça
en Russie, il y en a autant
non,
que des Algériens
pas,
qui
évidemment.
Tuent des enfants en France.
Et hein. Donc, bien évidemment, cette couverture sur l'Occident décadent était faite pour suggérer qu'il y avait des contre-modèles, et des contre-modèles anti-décadence, bien évidemment, donc de résistance, des valeurs traditionnelles, de la famille, de la religion, etc. Non mais attendez, le taux d'avortement en Russie, en Ukraine aussi d'ailleurs.
Oui, pareil, tout ce qu'on dit sur la Russie, c'est pas ça pour l'Ukraine.
La pratique de la GPA, hein, en Russie
les boîtes
et homosexuelles, en Ukraine,
les boîtes de nuit homosexuelles à Moscou même, parce qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas, vous voyez.
La prostitution, les films porno, la drogue, la criminalité, etc. Est-ce que vraiment, en fait, on doit absolument idéaliser un contre-modèle à partir de fables ou à partir de mensonges pour critiquer nos propres défauts, et Dieu sait qu'on en a bien évidemment, mais je veux dire à un moment il faut arrêter
russe,
de raconter des fables aux gens.
La jeunesse russe, la jeunesse non pas de monsieur tout le monde, hein, la jeunesse russe, non pas celle qu'on envoie sur le front comme de la
chair à canon,
de la chair à canon, et qui est ni plus ni moins, disons-le, une population qui vient du Caucase et qu'on veut.
Mais pas que, il y a des pauvres gars de la classe ouvrière.
Bien sûr, bien sûr. En fait, les pauvres gens qu'on envoie. Mais la jeunesse issue de ces classes d'oligarques qui sont les soutiens de Poutine, qui sont eux les soutiens de Poutine, moi je les ai vus. Je peux vous les décrire. Hôtel Hermitage à Monaco, c'est un hôtel, un palace superbe. Vous avez le bar Gustave, vous avez une terrasse, je vous l'ai décrit, c'est hyper luxueux. Vous avez cette jeune fille assise là sur la terrasse. Vous savez, c'est tellement beau que vous n'osez même pas marcher sur le marbre tellement il brille et il est beau. Vous voyez, et c'est de même pour les meubles. Alors vous avez cette jeune fille russe d'oligarque qui porte des sacs à main à 40 000 euros. Je dis bien des sacs à main à 40 000 euros. Je vous passe les détails sur le reste. Ça existe. qui ont leurs chaussures sur le canapé parce que elle s'en fiche royalement de savoir si quelqu'un veut s'asseoir après elle et qui n'a pas envie de s'asseoir sur sa saleté et qui fume des cigarillos. Vous savez, ces petits cigares. Ouais. Et vous savez où elle balance la cendre par terre.
Voilà. Fabuleux.
Ça, c'est l'éducation de la
de l'oligarchie russe.
L'élite russe conservatrice. Alors,
qu'on ne vienne pas nous dire, justement, parce que ça fait partie des fables qu'on a, qu'on colporte d'ailleurs toujours sur, sur Poutine, c'est que on disait « Ah, Poutine, il a chassé les oligarques qui ont, avaient mis la main sur la Russie à l'époque d'Eltsine. Regardez ce qu'il a fait avec Rodorkovsky qu'il a envoyé au goulag. »
Oui, pour mettre ses copains à lui.
Voilà. Et en fait... Quand vous lisez attentivement des livres ou des enquêtes qui ont été faites sur le sujet, je pense au bouquin de Volton qui s'appelle « Le KGB au pouvoir », par exemple, il a mis ses copains à lui. Ouais. Alors, il en a envoyé plein au goulag, mais il les a remplacés par d'autres. Et avec exactement les mêmes méthodes d'oligarchie mafioso.
Oui, parce que les autres lui échappaient. Les autres lui échappaient, il a mis ceux qui ne lui échappent pas. D'ailleurs, même ceux qu'il a mis... Parfois, ils les éliminent. Ils tombent du balcon, ils se noient dans leur piscine.
Il y a énormément, en effet, de chutes du balcon.
Parce qu'ils commencent à avoir la grosse tête, comme on dit. Ils commencent à lui échapper un peu. Ils ne versent pas la dîme. Vous savez, parce que, en fait, on vous nomme, vous devez donner une sorte de...
Même
de...
dans certains cas, en fait, vous êtes permis une critique, vous n'êtes pas assez enthousiaste vis-à-vis de la stratégie poutinienne.
Vous ne donnez pas assez, etc. Et ben, vous noyez dans votre piscine. Alors, il y a autre chose aussi, c'est le... Alors, bon, je vous ai décrit un peu ces situations, je vous passe l'argent qu'on jette comme ça, de manière vulgaire et tout, alors que leur pays est en guerre, hein, donc voilà. Donc ils ont des concitoyens qui meurent sur le front, charcutés, et eux, ils sont là, bon, très bien. Et que dire d'autre? Vous discutez avec eux. Alors là, c'est très intéressant. Je n'ai pas fait que voir, j'ai discuté avec eux. Et donc, quand vous discutez avec eux, on se rend compte d'une chose. D'abord, certains sont résidents, ici, même si c'est à la moitié du temps. Oui. Voilà. En tout cas, leurs femmes et leurs enfants sont là, et eux, ils font des allers-retours pour le travail.
Pour les affaires.
Voilà. Donc, les femmes et les enfants sont sur la Côte d'Azur. Vous vous rendez compte qu'ils ne parlent pas un mot de français. C'est-à-dire qu'on critique... les Maghrébins, les immigrés du Maghreb, d'Afrique, etc., qui ne s'adaptent pas. Mais alors eux, ils parlent pas un mot de français. Ils parlent en anglais. C'est-à-dire qu'ils parlent entre eux en russe, et lorsqu'ils s'adressent aux Français, ils leur parlent en anglais, alors que ça fait 20 ans qu'ils habitent en France.
Ouais, mais parce que
pas aucun effort.
Tout transite par leurs larbins, qui eux sont francophones.
Voilà. Donc aucun effort de politesse. Au bout de 20 ans, vous pouvez parler 2-3 mots de français. Deuxièmement, on discute avec eux. Ils ont un mépris. Alors ils aiment beaucoup la France. Ils vous disent la France, on adore, mais on déteste les Français. Ah, et pourquoi? Ah, ils ne nous détestent pas parce que, à cause d'Emmanuel Macron, je vous rassure tout de suite. Parce que c'est ce qu'on pourrait croire. Non, ils ne nous détestent pas pour des raisons politiques. Ils nous détestent parce qu'ils nous trouvent bêtes, insignifiants, prétentieux. Très bien, entendu. Et puis eux, alors ils vous expliquent que eux sont extrêmement éduqués, que nous sommes des illettrés. Voilà. Donc on revient à Tolstoï, Dostoïevski.
Exactement, voilà.
Voilà. Donc ils sont persuadés que eux, ils sont l'élite de l'élite.
C'est entre deux découpages de phalanges, peuple... on lit du Tolstoï. Ouais,
voilà, bah... ils sont persuadés qu'ils sont une élite extrêmement cultivée et que nous sommes des ignares. Voilà comment ils nous voient. Hein. Ils vous le disent. Hein. Ils vous le disent. Et donc, je leur ai dit, mais attendez, depuis au moins 40 ans, qu'avez-vous inventé? Parce que je sais pas, nous en France, on a découvert des virus. Nous avons
genre vaccin.
Voilà, le SIDA par exemple, c'était un professeur français. Nous avons créé la puce que vous utilisez dans vos cartes de crédit.
Ouais.
Nous avons inventé le QR code. Et j'en passe des meilleurs. Alors, les Américains encore mieux. Intelligence artificielle, des logiciels incroyables. En France aussi, d'ailleurs, on est très fort dans les logiciels informatiques.
On
crée des choses. On fait des voitures. On fait des avions Airbus. On fait plein de choses. Et vous, à part fabriquer des armes qui marchent à moitié, qu'avez-vous fait? Enfin, qu'avez-vous inventé scientifiquement? Rien. Médicalement, rien. Votre pays, en dehors de vous, qui prenait l'argent du pétrole qu'il dépensait, vit dans la misère. Enfin, Et je vous assure qu'ils sont persuadés qu'ils sont supérieurs à tout le monde.
Oui, bah évidemment. Alors on en vient à la question des ingérences, parce que c'est assez intéressant, parce qu'on est de l'autre côté du spectre maintenant, c'est-à-dire ceux qui ont pris la figure de Poutine comme une espèce de diable universel qui permet... Alors avant, il y a eu Jean-Marie Le Pen, par exemple. Alors maintenant, on dit « Ah, il est poutiniste ou poutinophile, ou il ne critique pas assez Poutine, donc c'est une figure du mal. » Et alors maintenant, le mot à la mode, donc, c'est l'ingérence. Alors, récemment, on a parlé d'ingérence, puisque Gabriel Attal, futur candidat, ou en tout cas probable candidat à la présidentielle de l'année prochaine, s'est plaint d'ingérences étrangères, en ajoutant tout de suite après que c'était russe, bien évidemment.
Êtes-vous sûr que le russe le connaisse ?
J'en doute fort. Et pourquoi des ingérences ? Parce que aurait circulé sur Internet, vous savez, grâce à l'intelligence artificielle, on fait ce qu'on appelle des deepfakes, c'est-à-dire la falsification par l'image ou par le son, les deux.
Ce que tout le monde sait.
Donc, de faux reportages tendant à prouver qu'il était, je ne sais pas trop quoi, un féodé aux Américains, anti-russe, que sais-je encore.
Pierre-Henri, je vais vous poser une question. Les Russes vont s'embêter
à faire
perdre une demi-heure, ne serait-ce qu'une demi-heure, pour faire ça contre quelqu'un qui n'a aucune chance d'être élu, qui n'a aucune importance, en fait.
Est-ce que le FSB, Poutine et ses ministres n'ont pas d'autre priorité que celle de faire des deepfakes concernant Gabriel Attal ?
Non, mais surtout, je vais vous dire une chose, c'est pire que ça. Mais ils ne perdront pas une demi-heure pour faire quoi que ce soit contre qui que ce soit en France. Vous savez pourquoi ? Parce que nous ne sommes à rien, malheureusement. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais nous ne pesons
plus rien.
Donc, ils feraient ça avec un pays qui peut faire quelque chose contre eux, vous voyez ?
Oui, et en fait, vous savez que
si on donne quelques armes à l'Ukraine encore, oui.
Bon. Exactement, voilà.
Bon, allez,
mais
pourquoi
via
pas.
L'Union Européenne, admettons.
Ouais, admettons.
Mais qu'est-ce que ça va changer au schmilblick, aurait dit Coluche ? Pas grand-chose.
Oui. Est-ce que nous ne faisons pas ça, Pierre-Henri ?
On l'a
toujours
fait.
Parce que nous, on ne s'ingère pas dans des...
La désinformation,
déjà.
Qui ne
s'ingère pas chez son voisin et son concurrent ?
Très ouvertement.
Même les pays alliés s'ingèrent dans les affaires de leurs amis.
On donne toujours l'opinion que notre chef d'État a sur les élections du voisin. On a vu ce que ça a donné en Roumanie.
Ça, on s'espionne entre amis.
Oui.
Les États-Unis nous espionnent, nous les espionnons aussi.
Nous les avons espionnés.
Les Allemands.
Les Allemands nous espionnent. Nous, on les espionne pas assez, à mon avis, mais les Allemands nous espionnent.
On n'en sait rien, en réalité, on ne va pas le dire.
En réalité, on ne le sait pas.
Comment on appelle ça
pas
déjà ?
Pas vu, pas pris. Exactement.
Donc...
Emmanuel Macron avait tenu des propos fort désagréables sur Giorgia Meloni, par exemple.
Absolument.
Et ses ministres, d'ailleurs.
Mais combien
pas
de fois
que,
on s'est mêlé des affaires de hongroises, par exemple ?
Oui.
Les pressions que l'Union Européenne a fait en Hongrie
et
pour empêcher Orban,
les sanctions,
les menaces, la Roumanie.
Si ça, ce ne sont
tout
pas
le monde
des ingérences.
Chez tout le monde, il faut arrêter de...
Évidemment. Mais surtout que là, en fait, c'est devenu une espèce de mot à la mode ou de mot totem pour dire que l'on est une cible de Poutine. Donc, comme quoi, on doit vraiment être quelqu'un de bien, être quelqu'un d'important.
Ne pensez-vous pas que c'est une préparation pour la pré-présidentielle ? C'est-à-dire, je m'explique...
Pour nous refaire le coup de Trump 2016.
Oui, c'est-à-dire...
L'ingérence russe.
Et ils se disent, si jamais on perd, on va expliquer que celui qui a gagné n'a pas de légitimité parce qu'il a gagné...
Parce que c'est Poutine
qui
l'a fait gagner.
C'est la manipulation russe qui l'a fait gagner.
Oui,
manque de peau, pardonnez-moi encore l'expression.
C'est ce qui est arrivé en Roumanie.
Absolument.
L'invalidation des élections
en
Roumanie,
c'est ça. Mais ils
sont
un peu dans une situation compliquée parce qu'il se trouve que le Rassemblement National... n'est plus, je dis bien n'est plus, parce qu'il fut un temps où il était plus ou moins avec
poutinophile,
c'est un peu exagéré, disons qu'ils avaient emprunté de l'argent à la Russie, Marine Le Pen avait rencontré Poutine, bon très bien, enfin sans plus, hein, pas plus que Chirac, pas plus que Fillon, pas plus que
Gerhard Schröder,
et Emmanuel Macron qui l'a reçu à Versailles tout de même,
oui,
voilà.
Tout à fait.
Bon, pas plus que ça, mais il se trouve qu'aujourd'hui le Rassemblement National n'est pas du tout en faveur de la Russie dans la guerre ukrainienne, etc.
Ah non,
pas du tout.
Loin de là.
J'ai entendu plusieurs prises de parole, moi, où ils déclarent qu'il faut se méfier de l'impérialisme russe, etc. Donc l'accusation est un peu de moins en moins.
Dans la bouche des adversaires du RN, elle sert toujours et tout le temps. Marine Le Pen, l'agent de Poutine, etc.
Oui, mais est-ce que ça va marcher ?
De la même manière, d'ailleurs, que sert encore contre Trump l'accusation d'être vendu au KGB, une marionnette de Poutine,
etc. Ça aussi, ça marche de moins en moins, quand même.
Ça marche de moins en moins, mais c'est toujours présent dans le discours.
Bien sûr.
Voilà,
mais
donc,
moi, je pense que c'est une stratégie, effectivement, comme vous le dites, d'essayer de discréditer les adversaires à tort, sans fondement, mais on dit toujours diffamer, diffamer, il en restera toujours quelque chose.
Il en restera toujours quelque chose, a fortiori quand même, parce qu'on a tendance à oublier, quand on est sur Radio Courtoisie des deux côtés du micro, hein, on a tendance à oublier qu'il y a une bonne partie de nos compatriotes qui n'ont pas du tout le même degré de suivi de l'actualité nationale et internationale que nous et nos auditeurs, nos auditeurs et nous, pardon, et donc qui sont parfois beaucoup plus crédules, beaucoup plus perméables à ce genre de mensonges quand ils sont répétés, et il y a, je pense, beaucoup de gens qui, de bonne foi, pensent encore que Marine Le Pen est un suppôt de Poutine, même si elle prétend l'inverse, parce que Poutine, lui, entre guillemets, lui a prêté de l'argent il y a quelques années. Donc, voilà, diffamer, diffamer, il en restera toujours quelque chose.
C'est vrai.
On se retrouve la semaine prochaine, mais attention, mercredi 17h, chers auditeurs, merci beaucoup, et bonne soirée à tous.
Merci, à bientôt.